Franchement, on les lui aura toutes faites. Hein. On leur a volé, on leur a déplacé, attaqué avec de la peinture rouge, avec un caillou qui lui a cassé le coude, figurez-vous, et même avec une tasse de thé, il manquait plus qu'elle soit entartée. Que vaut à la Joconde toute cette inimitié? Je me souviens d'un jour où j'avais demandé à la romancière américaine Toni Morrison ce qui lui faisait le plus peur dans la vie, et elle m'avait répondu cette épouvantable Mona Lisa qui vous surveille tout le temps en souriant. Et c'est vrai qu'il y a quand même un problème dans ce que Gainsbourg appelait son rictus immonde, ou son sourire ambigu, dont il chantait sa fierté d'en avoir sérigraphié 3 millions sur du papier cul. Ce sourire dont se méfiait aussi Paul Brafort, chanté par Barbara, en décrivant les « oh » et les « ah » de ses admirateurs, tout en lui attribuant les pires intentions à elle, pendant que les fans font la ronde et répètent, dit-il, en d'intarissables facondes, « oh, le sourire de la Joconde, c'est le plus beau du monde ». Elle, elle est blasée, elle redouble de vanité et elle glisse avec malice que son sourire, en fait, vient d'outre-tombe. Attendez que le vernis tombe, attendez la fin du monde, je sourirai sous les bombes, la Joconde. À la fin, c'est toujours elle qui gagne, qui juge et qui sourit, même quand elle est entartée et que par la crème d'une pâtisserie, sa vitre est toute tachée. Ça glisse.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue. Dans Boomerang, mon invité d'aujourd'hui a-t-elle une dent contre la Joconde? C'est important, elle est humoriste et affiche régulièrement sa drôle d'humeur dans l'émission de Lamy Nagui. En décembre dernier, après plusieurs années de tournée dans toute la France et en Suisse, elle donnait au Paradis Latin une ultime représentation de son spectacle drôle qui sera mercredi prochain disponible à la télé. Elle y parle dépression, crossfit, phallocentrisme et fin du monde. Bonjour Marina Rollman.
Bonjour Augustin.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors avant toute chose, parce que je sais que ça vous intrigue, qu'est-ce que cette pauvre Joconde a fait pour mériter qu'on s'en prenne à elle, sérieusement?
Mais je crois qu'elle va titiller un truc qu'on n'aime pas en France, et elle a un succès... On est parti. Il y a un truc booba chez elle, quoi.
Ce serait
elle a un truc très tranquille, tout va bien. Elle a cette espèce de resting bitch face comme ça.
Et ça veut dire quoi, resting bitch face?
Ça veut dire que son expression de base nous dit un peu d'aller nous faire foutre, mais gentiment, hein, calmement. Et je pense qu'il y a un truc très booba. On ne supporte pas ce succès, on a envie de la souiller à tout prix, et elle ne bouge pas.
Le problème, c'est aussi qu'elle est systématiquement assaillie par des milliers de visiteurs venus du monde entier, pas tellement pour la voir d'ailleurs, mais surtout pour la photographier, ou pire, pour se photographier devant.
C'est sublime, ces espèces de cet océan de bras et de flou et cette vitre qui reflète, et pourtant les gens veulent une millième photo, et on s'est dit mais elle a été immortalisée. À partir du moment où quelque chose est sur des t-shirts, on n'a pas besoin d'en refaire une photo. Et si on veut la sienne, c'est mystérieux.
Alors se pourrait-il, Marina Rollman, et c'est une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, que je vous soumets, que la cible de l'homme qui a lancé la tarte ait été non pas la Joconde, mais la foule qu'il essayait de disperser.
Ah, pour avoir un petit tête-à-tête. Et avoir son petit moment de gloire, la réalité c'est ça. Mais du coup, il a vraiment mal choisi son look. Ces 15 minutes de gloire warholienne, c'est quand même dommage de les avoir fait avec une perruque un peu de traviole et une vieille écharpe, quoi. C'est un peu triste.
Il y a cette scène incroyable où il se lève, en fait.
C'est un miracle, c'est lourd.
Oui, c'est ça. Mais il y a une forme de miracle là-dedans. Ouais. Ce geste, cette tarte, quelle lecture est-ce que vous en faites, vous?
Vraiment, c'est un truc narcissique, sublime. Je trouve ça formidable, ces gestes qui se veulent un peu révolutionnaires. Parce qu'en plus, il a essayé de scander un truc un peu genre, oui, c'est pour les ours polaires. Je sais pas, il a essayé de faire un petit Greta Thunberg une seconde.
On n'a pas compris le lien.
Mais c'est clairement pour dire, j'ai envie de ma photo dans les journaux. C'est touchant.
Alors, c'est intéressant, cette idée de l'attention. Jusqu'où seriez-vous prête, vous, à aller pour attirer l'attention sur vous?
Eh bien, écoutez, pas plus tard qu'hier, Augustin, j'ai posté un petit carrousel sur Instagram de portraits de moi qui sont vraiment ce qu'on appelle des thirst traps. C'est-à-dire que je vais vraiment à la pêche aux compliments. Et j'ai décidé que c'était cet été-là. C'est cette année, c'est en 2022, on se détend sur la question et on va vraiment, sans complexe, chercher du baume pour l'ego.
Pour qu'on vous regarde, pour
qu'on
parle de
vous.
Mais
oui, qu'on m'aime, oh là là, bien sûr, c'est
ça. Tout simplement, ouais. Oui. En quoi diriez-vous que ce besoin d'attention, c'est peut-être l'un des marqueurs les plus caractéristiques de notre époque, en fait, Marina Rollman?
Ouais, il est évident, mais parce que comme tout le monde y court, c'est compliqué de se dire, mais si moi je me taisais. Parce que ça peut se faire en soirée. Vous savez, tout à coup, être la personne mystérieuse qui parle un peu moins et vous attirer à vous. Mais dans le bruit ambiant du monde, c'est difficile d'être celle qui est en silence et dit bah personne ne vient, personne ne voit que je suis terriblement mystérieuse dans le coin de la pièce. Moi j'adore faire ça en soirée. Et la personne qui parle moins, forcément ça vous attire des gens intéressants, mais dans le monde d'internet c'est un peu compliqué.
Et puis je pense aussi tout simplement aux gens qui postent des photos de leur abdos sur les réseaux sociaux.
Ah
aussi.
évidemment. Alors ça c'est j'ai beaucoup jugé, et c'est vrai que dans mon spectacle je parle du fait que les gens qui font du sport, je les trouve mystérieux à aller chercher comme ça le compliment, et je suis en train de tomber moi-même là-dedans, et je vois qu'il y a une certaine douceur à aller poster des photos de ses abdos, même si c'est quand même un témoignage de solitude.
Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on poste ce genre de photos?
Pour aller chercher de l'amour, hein, c'est très clairement moi. Mais hier encore.
Ou alors pour convertir autrui.
Ah, alors peut-être qu'effectivement, il y a un côté secte. Je pense que chez les sportifs, il y a de ça beaucoup. Regardez, j'ai réussi. Peut-être je touche du doigt la transcendance. Est-ce qu'on ne serait pas dans une nouvelle forme de religion? Vous aussi, rejoignez-moi dans cette grande secte des abdominaux. Peut-être qu'il y a de ça.
L'addiction au sport et à des pratiques comme le crossfit, par exemple, ce qui est une sorte, faut le dire, d'abattage des muscles pour devenir culturiste. Il n'y a pas d'autre terme.
Absolument.
Dont vous parlez beaucoup dans votre spectacle. Qu'est-ce que ça dit de notre époque, à votre avis?
Alors, moi, surtout, je trouve qu'il y a un sous-texte BDSM dans ces pratiques-là que je trouve fascinante. C'est-à-dire qu'il y a quand même une, ils ont tout un vocabulaire où ils se font du mal, puis ils disent qu'ils ont mérité. Ils ont donc une journée où ils peuvent tricher et mériter un repas qui les faisait rêver pendant longtemps. Enfin, en fait, je trouve qu'on est vraiment dans les usages du religieux, le chemin de croix, la pénitence, le jeûne, etc. Je pense qu'ils essaient de remettre en place ces usages-là. Souffrir pour ensuite mériter, expier sa peine. Enfin, il y a quelque chose de très religieux.
C'est que j'adore vos théories.
C'est vrai.
Non, mais j'adore vos théories. C'est pour ça que je vous les pose, véritablement. Et vous les développez dans votre spectacle. En quoi ce besoin d'attirer l'attention sur soi, ça peut parfois confiner à la folie pour vous? La folie pure et simple, en fait.
Ça donne lieu à des gestes comme celui de la Joconde. Et puis, ensuite, il y a un truc d'emballement un peu fou. Je suis allée voir le nouveau spectacle de La Horde, là, il y a quelques jours. Donc,
Formidable collectif de danse.
Oui, qui est intégré au Ballet National de Marseille. Et ils présentaient une de leurs nouvelles pièces qui s'appelle Roommates. Et en fait, ça commence par une espèce de coït. On se dit, ah, c'est un peu littéral et tout. Et en fait, au bout d'un moment, la force des danseurs et la répétition des gestes un peu obscènes fait qu'on se rend compte qu'en fait, c'est des gestes dont on est abreuvé tout le temps sur les réseaux sociaux. C'est une manière de déhancher, une manière de vouloir être plaisant et tout. Et en fait, quand on le voit en multiplié comme ça, ça confine effectivement à la folie. Et donc, je trouve qu'il y a un truc de folie dans le fait de l'attirer d'attention, mais surtout, aujourd'hui, la multiplicité. C'est-à-dire le nombre de fois par jour, on va voir des gens qui se prennent en photo, qui se mettent en scène, qui vous demandent de l'amour. C'est ça, je trouve, qui devient un peu... c'est cet emballement-là qui rend fou, je trouve.
Ce que j'aime bien, c'est que vous parlez aussi toujours de vous, votre folie à vous. Qu'est-ce que vous en faites?
Zinzin au dernier degré. Comment est-ce que ça... Ben, je ne dors plus. Alors, en ce moment, c'est vraiment ça, ça se traduit par se coucher à 1h du matin et se réveiller à 5h. Beaucoup trop de café.
Vous dormez un peu quand même.
Genre, oui, vous avez raison.
Parce que là, vous venez juste de décrire mon mardi soir, mon mercredi soir, mon jeudi soir.
Mais peut-être qu'on est fous ensemble, Augustin, c'est ça.
Est-ce que ça sublime la folie, Marina?
Ah oui, bien sûr, c'est ça. Il faut trouver des endroits. Là, récemment, j'écrivais un truc et je me suis rendu compte que je suis tombée amoureuse de mon projet. Ça, c'est magnifique.
Alors, quand vous dites amoureuse, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'un élan amoureux, ce genre d'emportement, ces moments où on frémit et on ne pense qu'à une chose, et ben, j'ai réussi à le déplacer sur mon travail. Je ne sais pas si c'est très sain, mais tout à coup, c'était un super canal à la folie. C'est-à-dire qu'il me manquait quelque chose dans la vie et j'ai réussi à le mettre dans le travail. Est-ce que ça donnera quelque chose? On ne sait pas.
Ça peut être sensuel dans ce cas-là?
Est-ce qu'il y a un rapport sensuel au boulot? Peut-être un peu. Faire des fichettes, les réarranger.
Ah bah la fichette, Marina.
La fichette, c'est très sensuel. Ouais, vous avez raison.
Ouais. Est-ce que ça vous arrive de votre folie de la prendre tout simplement, de la mettre en boule et de la glisser sous le tapis?
Bien sûr, évidemment. Il faut savoir à des endroits être un tout petit peu dans le déni et dire oui, il suffit. On laisse ça aux soins des autres et puis après on va déverser ça chez des professionnels.
Est-ce que c'est une vraie histoire? De quoi est-ce qu'elle était faite cette boule?
Je pense qu'il était question de... c'était quand j'avais 20 ans à peu près. Je ne m'expliquais pas le monde, je ne comprenais pas. Quand je parlais aux gens autour de moi, qui me disaient qu'ils faisaient des études ou qu'ils avaient un travail, je disais, oui, mais pourquoi? Tu vois, parce qu'après, je vais avoir mon master. Oui, mais pourquoi? Parce qu'après, je vais essayer de prendre un boulot. Et ça me rendait zinzin, parce que je ne comprenais pas la finalité. Donc, à un moment donné, j'ai pris toutes ces angoisses-là, j'en ai fait une boule, et puis je suis devenue un peu gentiment alcoolique, mais un truc mondain, sympa, et puis j'ai mené ma vie. Mais je n'arrivais pas à aller au bout de la question. Les gens n'arrivaient pas à m'expliquer. Encore aujourd'hui, c'est difficile. Mais pourquoi? Pourquoi tu te laves le matin? Pourquoi on fait ça? Pourquoi truc? J'ai arrêté de poser la question.
Au fond, qu'est-ce qui se passe quand on est dans le déni, quand on refoule?
Il faut occuper l'espace. Parce que forcément, ça crée un vide. La vie n'aime pas ça, le vide. Donc, il faut aller le remplir par la sociabilisation, les addictions diverses, la consommation, la parole. Regardez-moi ça, ce flot de mots qui sortent de moi en permanence pour remplir ce vide qui sinon nous poserait la question mais qu'est-ce qu'on fait là finalement, Augustin?
Non, mais ça c'est la question qu'on évite.
Voilà, c'est ça. Donc on parle vite et beaucoup. Voilà.
Non, mais le problème c'est que dans ce cas-là, quand on met dans un truc en boule et qu'on le met sous le tapis, le danger c'est que ça vous revienne, surtout en retour, comme un boomerang.
Évidemment, ça revient toujours et à ce moment-là il faut trouver des professionnels idoines, des gens à qui aller parler. Là, j'en ai une super en ce moment.
Vous savez qu'il y en a une qui revient tout le temps dans cette émission, c'est évidemment la culture, qui réapparaît chaque jour à point nommé. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 2 juin?
Jimmy,
Diagonale de la Teuf, c'est aujourd'hui que débutent à Lyon les très électriques et éclectiques Nuits de Fourvière qui mixent les genres pendant 3 semaines au programme notamment du théâtre avec le Tartuffe de Molière par Ivo Van Hove, des ballets équestres avec l'écuyer Mario Luracci et bien sûr de la musique avec Nick Cave, Phoenix, M ou encore Juliette Armanet. Dans le même temps, à Vincennes, près de Paris, le festival We Love Green fait son grand retour après 2 ans d'absence et organise pour l'occasion une fiesta de tous les diables. On y dansera avec Gorillaz, Georgia Smith, PNL, Angèle, SCA. Nous voilà gâtés, ma gâtée.
Quand on dit star, en tous les cas en France, avec l'auréole qu'ont toujours les acteurs américains, c'est ni par fausse modestie, ni par orgueil, mais je trouve que ce mot ne me convient pas tellement.
Et pourtant, notre reine à nous aujourd'hui, c'est elle. Catherine Deneuve recevra un Lion d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, ont annoncé hier les organisateurs de la Mostra de Venise, qui se tiendra sur la Lagune du 31 août au 10 septembre prochain. L'actrice, aux 142 longs métrages, a déjà reçu au cours de sa carrière 2 Césars de la meilleure actrice, une Palme d'honneur à Cannes, un prix Lumière à Lyon, un Ours d'or d'honneur à Berlin, mais jamais rien à Venise. Injustice réparée, un vrai jubilé.
Moi, Molière.
Levé de rideau sur le mois Molière, alors que l'on célèbre en grande pompe les 400 ans de la naissance du dramaturge, la ville de Versailles inaugure la 25e édition de son festival de théâtre. Au programme des festivités, près de 230 propositions, avec des spectacles bien sûr, mais aussi des concerts, des conférences, des expos, des pièces pour enfants. Hier, pour l'occasion, un portrait sculpté de Molière a été dévoilé. Installé dans un bosquet à proximité de la gare, la statue d'1m80, représentant un Molière assis, est signée de l'artiste contemporain Xavier Veillant, c'est grand.
Mais tous les jours, ou presque, on a l'impression qu'il y a un prix qui est décerné.
Et enfin, pluie de prix, Marina, hier, le tout nouveau prix du Meurice, du nom du célèbre hôtel parisien de la rue de Rivoli, a récompensé l'écrivain Louis-Henri de la Rochefoucauld pour son livre Château de Sable, déjà lauréat du prix des Deux Magots. Dans le même temps, le prix Joseph Kessel 2022, décerné dans le cadre du festival Étonnant Voyageur, qui ouvre ce week-end à Saint-Malo, a été attribué au très polynésien Fénua de Patrick Deville. Enfin, comme le veut la tradition, la Société des gens de lettres, la SGDL, vient de dévoiler sa liste de lauréats de l'année, parmi lesquels l'écrivain Claude-Louis Combet, récompensé du Grand Prix de littérature pour l'ensemble de son œuvre. Et Marina Rollman, invitée de Boomerang ce matin, pour parler de votre approche de l'humour quand même. Et ce que j'ai remarqué dans votre spectacle drôle, alors spectacle drôle, c'est le nom du spectacle, c'est une prise de risque hein, d'ailleurs.
Oui, ça c'est laconique, une confiance en soi à l'aise,
voilà,
dans les poches.
C'est ouais, parce que si ça se trouve, c'est pas drôle.
C'est ça, c'est le grand pari du bidule.
Mais alors c'est drôle. Et moi j'aime cette façon que vous avez de jamais imposer une idée frontalement, de toujours laisser l'air de rien, le dialogue ouvert, ce goût du compromis, Marina, cette capacité d'écoute, ça vous vient d'où?
C'est éminemment suisse, effectivement.
C'est ce que je me disais, mais je n'osais pas le dire de peur de verser dans le cliché.
Non, mais vous avez raison, ce n'est pas un cliché grave. Et à nouveau, voilà, là je suis à nouveau dans le compromis et je vais vers vous. Je crée des ponts. On est le pays du consensus et je pense que c'est une manière d'aborder le conflit qui est rafraîchissante en France parce qu'on sort de cette idée qu'il faut absolument sortir le glaive et s'opposer pour créer du... ce que je trouve souvent très productif, très beau en France. Moi, j'aime bien l'idée qu'on crée des ponts. Mais ça me vaut parfois le fait de faire rire des gens avec qui je ne suis pas du tout d'accord.
C'est un problème.
Je manque de radicalité. Et donc, à la fin du spectacle, des gens viennent me dire « Oh là là, qu'est-ce qu'on arrive ?» Puis on parle 5-10 minutes, puis je me rends compte qu'ils ont envie que les migrants se noient. Et je me dis « Ah, il y a eu malentendu. Malheureusement, on s'est retrouvés. »
Oui,
mais on n'aurait pas dû.
Ce sont des moments d'immense solitude et je peux aussi parfois en témoigner. La bienveillance nous tuera, sans parler de la bien-pensance. Moi, ce qui m'intéresse, surtout là-dedans, c'est la façon dont vous l'utilisez, en fait, au service de votre art, la façon dont vous mettez en scène le dialogue, en fait, dans vos spectacles. En quoi l'humour permet-il justement de dialoguer, d'ouvrir la discussion?
Ah, mais c'est dans les préceptes oratoires qui ont été posés avant nous par les Romains, les Grecs. L'idée qu'on va aller séduire en faisant rire son auditoire pour ensuite mieux faire passer une pilule avec lesquelles les gens ne sont pas forcément d'accord, c'est merveilleux, ça vous ouvre toutes les portes, c'est formidable. Et moi, je reçois souvent des messages de gens avec sur Instagram, c'est des messieurs qui ont des petits pulls sur les épaules comme ça, qui me disent « je ne suis d'accord avec vous en rien politiquement ». C'est vraiment des petits jeunes gens de droite, super.
J'ai un petit pull, là, je commence à le
mais
prendre perso. Fait...
Non, mais tu n'as pas sur les épaules, voilà, ouais, c'est
d'accord.
Ça. Il ne faut pas le nouer, il ne faut pas qu'il s'en rose pas et le nouer. Et qui me dit « je suis d'accord avec rien, mais vous me faites rire ». Et je trouve ça hyper chouette qu'effectivement on arrive à dialoguer avec ça. Et on fait passer des trucs, on fait passer des bidules. Mais c'est parce que j'ai le privilège aussi de ne pas être trop en colère sur certains sujets pour avoir encore l'énergie de faire de l'humour.
Mais c'est intéressant, ça voudrait dire que la scène est un des rares endroits, un des rares espaces où on peut encore dialoguer, où on peut encore débattre, où on peut encore s'affranchir.
Mais aussi parce qu'ils sont captifs. on les a quand même kidnappés pendant une heure et demie.
C'est
et à moins qu'ils soient vraiment très téméraires, ils n'ont pas le droit de se lever et de vous dire « Non, je ne suis pas d'accord !» et d'écrire en, tout en majuscule comme on le ferait sur Internet. Et donc ça, c'est quand même assez ça, c'est délicieux. Ça, on a le temps de les convaincre.
Ça vous arrive de parler en majuscule
constamment,
vous aussi.
Constamment, mais c'est ça. Dans la rue. Est... Bah, les gens ne savent pas se mettre de côté dans les escalators.
Oui, c'est une
bien
question
sûr,
typographique en fait.
C'est terrible, c'est terrible.
Mais alors, ça se passe, ce que vous décrivez là, ça se passe également en Suisse, quand vous jouez en Suisse?
Oui, et puis alors en plus, moi maintenant je reviens en Suisse nimbée de l'aura de la fille du pays qui a été adoubée par la France, parce qu'on a ce rapport très compliqué de petite sœur complexée par rapport à la France. On n'est que 2 millions à parler français chez nous, donc voilà. Donc à la fois on déteste les Français, mais en fait revenir avec le petit tampon « la France vous a aimé » fait qu'on m'accueille à bras ouverts. « Ah, je l'ai toujours aimé !» Alors que si j'avais gardé une carrière en Suisse, 90% des gens auraient dit « Oh, m'énerve, ça va me fait chier !»
Et inversement, je vous dirais, parce que le fait que vous soyez suisse a beaucoup compté dans cette invitation ce matin.
Ah, c'est ça, bah, il fallait la minorité, ouais, il fallait un peu de diversité.
Vous savez que du coup, j'ai vérifié. Et ouais. C'est vrai que c'est un pays qui est un peu sous-représenté dans notre émission. Après Marthe Keller, Henri Dest, Nana Mouskouri, qui est genevoise hein,
oui,
d'adoption, qu'on embrasse et qui est toujours
bien
la bienvenue
sûr,
dans Boomerang.
Évidemment.
Bah, vous êtes seulement la quatrième Suisse de l'histoire de cette émission
en
8
peu.
Ans.
Ouais. Mais à la fois, on n'est que 2 millions à parler français, quoi. C'est pas... Non, vous avez déjà eu Stéphane Echard, non?
On a eu Stéphane Echard,
ah,
vous avez
bah,
raison,
voilà.
Je l'avais
Suisse
oublié.
C'est autre chose.
Et pour rendre hommage à la Suisse, bah, on a décidé de diffuser une archive hein, de la radio-télévision suisse, la RTS, que vous nous avez soumise quand
bien
même,
sûr,
Marina.
J'ai une jolie femme, un joli style, fine, pas trop épaisse, simple et modeste. Faut pas croire que je suis aisé au point de vue finance. Non, je suis pas aisé malgré que je suis sorcier. Les sorciers ne sont pas riches, faut pas croire. C'est sûr, j'ai des vieux grimoires, j'ai pas mal de livres de sorcellerie, j'ai le grand et le petit Albert, j'ai le grimoire du pape Honorius qui m'est très précieux, j'ai un tas de livres sur les secrets, sur les plantes. Et je veux une femme qui s'intéresse à ça. Je lui montrerai tout, petit à petit, toujours un peu plus. C'est très dur d'être seul, c'est un fardeau pour moi. Et c'est difficile en tant que sorcier de me trouver une compagne, surtout que si le zodiacal rentre en ligne de compte, n'importe quel signe ne me convient pas. Comme par exemple, Sagittaire me conviendrait très bien, le Verseau aussi, la Balance aussi. Par contre, le Poisson, je ne veux pas une femme Poisson, et ni une femme Capricorne, ni une femme lion, ni une femme vierge. Ni une femme vierge, non.
C'est fou.
Et je suis lion, et donc je suis dépitée. Car moi aussi, j'aurais voulu vivre avec un sorcier qui me donne le secret. Donc le secret, qu'est-ce que c'est le secret?
C'est
parce qu'il faut, il faut ça. Alors le secret, c'est quoi? C'est, mais vous en avez, je crois, aussi en France, c'est les guérisseurs, c'est les gens que, bah, par exemple, si vous vous brûlez, vous avez une hémorragie, vous appelez un numéro et vous donnez votre prénom où vous êtes et cette personne arrête ça à distance.
Oui.
Et c'est un truc très répandu en Suisse, mais on a un annuaire de ces gens-là et ça s'appelle avoir le secret. Le secret.
Mais peut-être que vous savez pourquoi les lions et les lionnes ne sont pas compatibles avec les sagittaires. Je me suis demandé, comme vous nous avez soumis cette archive...
J'ai plein d'amis sagittaires, donc je dirais que moi, a priori, j'aime les sagittaires, mais peut-être pas en couple. c'est peut-être qu'on n'est pas compatible avec des sorciers, c'est plus ça.
Mais qu'est-ce qui vous touche, Marina Rollman, dans le témoignage de Marcel, ce sorcier fribourgeois qui m'a fait ma matinée, moi?
Bah, c'est extraordinaire. Je crois qu'il y a vraiment l'espace en Suisse pour la folie. Sans qu'elle vire au drame. Il me semble qu'il y a beaucoup plus souvent, je croise, des originaux, peut-être parce que socialement, c'est un peu moins difficile et donc on sombre pas forcément tout de suite dans un truc tragique. Il y a une espèce d'espace où ils peuvent flotter et il y a des zinzins partout en Suisse. Je vous jure, dans le bus, dans le truc. Dans... Mais même, en fait, quand on arrive à la gare de Genève, il y a donc un centre d'injection. Pour les toxicomanes, ce qui n'existe pas vraiment encore en France. Ça, par exemple, ça crée un microcosme fantastique où il y a des toxicomanes, mais voilà, qui sont en train de récupérer un peu de leur vie, mais qui existent, qui ont le droit d'être là parmi les citoyens. Vous voyez ce que je veux dire? On ne les a pas parqués dans un truc. Et je ne sais pas, ça crée, il y a un petit truc de folie constante en Suisse qui me fascine.
Vous savez ce qui m'a marqué aussi, moi, dans ce témoignage hein, du sorcier fribourgeois, c'est quand même sa solitude.
Il le dit.
Qu'est-ce que...
C'est... On a beau être sorcier, bon, la solitude, c'est voilà, c'est super. Il a des grimoires. Pardon, je vous ai interrompu.
Mais parce que ça représente quelque chose pour vous, la solitude.
Ah ben, et la solitude d'un sorcier d'autant plus. Je suis en train de l'apprivoiser et je trouve ça merveilleux parce que ça fait que je traverse des moments difficiles, mais quand on en ressort, on se sent d'une force, c'est extraordinaire.
Se peut-il qu'elle vous nourrisse?
Mais oui, et puis surtout de se dire que finalement, on n'en est pas mort, et puis le jour revient et on se dit, mais en fait... Ça va, je m'aime bien.
Et puis après tout, on est seul sur une scène.
Mais oui, en fait, tout ça, c'est délicieux. Alors, je suis en train de me rendre compte, je préfère être seule dans la vie maintenant que seule sur scène. Je commence à trouver ça difficile de fêter les victoires toute seule. Quand on est seul sur scène, un spectacle qui se passe bien, bah on sort de scène, on se congratule, on s'auto-tape l'épaule, mais il n'y a pas de joie, il n'y a pas de liesse de groupe.
Et puis on peut avoir des moments de solitude.
Oui.
Ça vous est arrivé ?
Ah bah alors la tournée, c'est un boulevard, c'est une accumulation de d'Ibis style et de TER fluo. Et
Non mais sur scène également.
Ah oh là là, le bide, bien sûr, évidemment.
Ah c'est le bide le moment de solitude.
Ah le bide, c'est super.
Oui c'est ça, c'est qu'on est vraiment tout seul sur scène.
Et bah à nouveau là en tournée, je sais plus où j'étais, je vais pas citer la ville. Premier rang, des enfants de 4 et 7 ans sur leur console, parce que manifestement les parents n'avaient pas trouvé de babysitter. Et 2, 3, 4e rang, que des octogénaires qui se levaient pour aller aux toilettes toutes les 5 minutes. Et donc j'ai sorti les rames, fait une heure de monologue, hein, si tu veux, c'était, voilà, c'était autre chose. Je lisais du théâtre classique, voilà, c'était autre chose, il y avait moins de rire. Quoi.
Ah, vous avez carrément abandonné le film.
Ah non, non, bah, je l'ai fait, bah, j'ai fait mon bidule, mais sans rire, forcément, ça prend une autre dimension.
Vous auriez pu chanter, Marina.
C'est vrai, je chante.
Vous savez ce que vous auriez pu chanter?
Qu'est-ce que j'aurais pu chanter?
Vous auriez pu chanter Holding Out for a Hero,
oh, oui,
de Bonnie Tyler. Bah, c'est important, c'est la bande originale de votre été, c'est ce que vous m'avez dit.
Je pense que cet été, je ne sais pas si je vais trouver un héros ou si je serai le héros de mon propre été, mais je pense que c'est le Summer of Love en 2022.
Summer of Love, carrément ?
Ouais.
Bon, bah alors là, vous me connaissez. On va rêver ensemble avec Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, donc, que l'on découvrait pour la première fois en 1984. Souvenez-vous, dans le film Footloose, je n'ai pas oublié les Justes au corps, et vous non plus. Vous êtes sur France Inter avec Marina Rollman, vous écoutez Boomerang, vous tenez le bon bout.
Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
C'est-à-dire qu'elle est héroïne, hein. On est quelque part entre Adèle H pour Wonder Woman et Heidi. La passion et la fougue romanesque, la dent lisse et saine, helvète, le cheveu décapotable, poussière de fée, pouvoir de la lune, avec son lit, son sac à main qu'elle a ouvert. Pour que je le décrive, on y trouve un livre, un casque, du shampoing sec, des lunettes noires, l'humoriste Marina Rollman, invitée de Boomerang, pour parler d'humour quand même et de vous. Quand est-ce que vous avez compris que vous étiez drôle, tiens?
Vers 8-9 ans, j'ai des copines qui m'ont dit que les garçons aimaient pas quand j'imitais Muriel Robin, c'était pas féminin. Voilà. Donc j'ai compris tôt que c'était pas sexy.
Attendez, parce que là je vous ai demandé ce qui était drôle et vous me dites que c'était pas sexy.
Ben, on m'a dit qu'à force d'essayer d'être drôle, tu es pas assez féminine. Voilà.
Alors, et là vous m'avez donné une autre information, ça veut dire que vous vous y preniez comment pour faire rire, tout simplement en imitant?
J'avais cette gouaille, j'étais hyper nourrie de Élie Kakou et Muriel Robin, et du coup j'avais cette espèce de gouaille parfois, et on me disait genre, bah, ça ne va pas du tout en fait, Thibaut et Charles ne trouvent pas ça joli.
Thibaut et Charles,
il s'appelait vraiment
des
Thibaut
horreurs,
et Charles,
j'avais ouais. Les mêmes. Et est-ce que vous imaginez que l'humour puisse devenir un jour votre métier?
Pas du tout, je comprenais pas comment les gens faisaient, ça n'avait aucun sens, je voyais pas quel était le pont entre ce que moi j'aimais bien faire et puis comment est-ce qu'on devenait Florence Foresti, et c'est en voyant des Américains et en comprenant qu'il pouvait y avoir aussi un côté dissertatoire à l'humour, un truc un peu plus analytique, comme moi j'aimais bien écrire. Je me suis dit, ah, mais là on dirait que c'est pas juste des gens très charismatiques, c'est aussi des gens qui écrivent.
C'est intéressant parce que c'est effectivement ça, hein, l'écriture. Après plusieurs années, vous êtes parvenue, Marina Rollman, à monter ce seul en scène, spectacle drôle, que vous avez joué pendant plus de 3 ans, et que vous n'avez jamais cessé d'ajuster, de modifier, de réécrire.
Parce que je m'ennuie.
Mais c'est toujours ce qui me frappe avec ces spectacles, c'est qu'en fait c'est comme si c'était des spectacles en attente en fait, d'une écriture finale, c'est jamais fini.
Mais je crois aussi que c'est des spectacles de gens qui aiment écrire. En fait, ce qu'on aime quand on aime écrire, c'est la décharge d'adrénaline d'avoir trouvé la bonne idée, et moins de la répéter. Et donc, en fait, quand on a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, on se dit, bah, ça c'était rigolo, mais passons à autre chose. Parce qu'en fait, la première fois qu'on teste des trucs, il y a un truc, ça remue, c'est hyper agréable. Donc moi, je me lassais souvent, donc je mettais des choses ailleurs, et puis je le renouerissais de nouveau bout.
Mais attendez, on tient une théorie là. Ça voudrait dire que faire rire, c'est d'abord une affaire d'écriture.
C'est une affaire d'écriture, absolument. Et c'est une affaire aussi de la tension. Il y a un truc d'équilibriste. Je tente quelque chose devant des gens en vrai, est-ce que ça va marcher ou pas? Et ça, ce rush d'adrénaline est super.
Dans le spectacle, vous dites aussi qu'il y a une certaine musicalité à l'humour. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Eh ben, j'ai le spectacle qui a été capté. J'avais un de mes meilleurs amis qui était là avec sa copine qui est américaine et qui ne parlait pas du tout français. Et elle comprenait par la rythmique à quel moment il fallait rire. Alors, elle était accompagnée de la salle, mais c'est aussi qu'en fait, on a quand même des patterns dans la manière dont on coach. Et il y a une rythmique, il ne faut pas faire trop long, il faut bien accentuer, il faut prendre des pauses au bon moment. Le timing, c'est immense dans l'humour. Je pense qu'il y a des gens très, très drôles qui n'ont pas des idées grandioses, mais qui ont un sens de « je vous impose que maintenant, il y a la surprise ou il y a le truc qui crée le rire ».
Et alors, vous trouvez ça où, la musique de votre texte? Sous la douche, ça fonctionne, par exemple?
Je crois qu'il faut se confronter au public. Je crois qu'on est obligé de voir comment elle réagit pour s'imposer ce truc.
Enfin, il faut quand même écrire un petit peu auparavant. Pour pouvoir tester, il faut avoir écrit. Vous écrivez où, vous?
J'écris pas mal sur scène, en fait, à vrai dire.
Ah, ouais, c'est vrai?
Je suis un peu une feignasse. Ouais. Avant, j'écrivais vraiment sur la page et je me rends compte
Mais quand vous dites sur scène, ça veut dire pendant le spectacle?
Oui, c'est-à-dire avec un début d'idée, évidemment, quelque chose qu'on a déjà un peu travaillé dans sa tête.
Ça peut être une seule phrase.
Ça peut être une seule phrase et je pense que c'est ça qui aide, c'est la pression d'être en équilibre et de devoir continuer à être spirituel et divertissant pour les gens. En fait, c'est comme en soirée. On a tous des moments de fulgurance où on fait rire une table. On n'avait pas prévu, mais on sait qu'on les tient et donc il faut qu'on les garde, qu'on garde cette attention. Ça nous pousse à être drôle, je pense. C'est un cerveau un peu augmenté.
Mais la douche, rien du tout, jamais.
Oh si, la douche, beaucoup de choses. La douche, plutôt, je répète, des discours de remerciement pour des prix que je gagnerai un jour.
Mais attendez, parce que là,
c'est mégalo.
C'est génial. Pourquoi les discours de remerciement?
Mais je sais pas, sinon je m'engueule aussi avec des gens imaginaires dans la tête. Mais parce que je crois que je regarde trop de late show américains, et donc je répète souvent dans ma tête, soit des interviews très spirituelles comme on est en train
de faire. Et le micro, c'est la bouteille de shampoing.
Voilà, exactement, bien sûr, évidemment, c'est ça.
Bon, écoutez, moi je vous propose, en attendant d'être nommée et couronnée par l'Oscar de la meilleure actrice, je propose de vous entraîner ici, vous êtes d'accord, en direct? Pour votre futur discours de remerciement, applaudissements. On y va, on lance.
Donc, je l'ai.
Ça y est, vous êtes, vous êtes la meilleure actrice ou la meilleure invitée.
Oh mon Dieu. Oh, putain, c'est moi, j'ai gagné. Waouh. Alors, j'ai gagné le prix de la meilleure. Voilà, je m'y attendais pas du tout. Par où commencer? Je m'adresse à quelle caméra? Il y en a pas. Bah oui, c'est pour ça.
Non.
C'est pour ça que tout le monde est là. Tant pis.
Oh.
Alors, bon, on a commencé cette émission, c'était il y a quoi? 30, 36 minutes, autant dire une vie. Il s'en est passé des choses, hein, mon Augustin, mon Gugus. J'étais tellement naïve à l'époque, j'avais un autre visage, un autre agent. Et puis voilà, la vie vous tombe dessus. Et puis on se retrouve à 9h36 et voilà, on se dit où est passé le temps.
Vous l'avez, le petit discours quand même devant vous.
Oui, j'ai toujours su que je voulais faire cette interview depuis que mon attaché de presse m'a dit qu'on devait la faire. J'ai dit on est obligé parce que c'est quand même très tôt. Elle m'a dit oui et là a débuté le plus beau jour de ma vie. Ce prix, je l'ai dit évidemment à la personne sans qui je ne serais pas là, nous ne serions pas là. Jésus, mon coach vocal. Je le dédie aussi à toutes les petites filles qui nous écoutent et qui ont un rêve. Devenir astronaute ou chirurgienne, mais qui sont vraiment trop connes et qui se replient sur l'humour, continuez à y croire. Voilà. Même s'il est vraiment très frêle et je pense pas loin de la retraite ou d'un gros accident de travail. Vous aussi, peut-être un jour, vous aurez la chance de faire boomerang avec Augustin Trapenard. Peut-être s'il fait une cure de vitamine B12, je ne sais pas. Qu'est-ce que je voulais? Meilleur invité, c'est avant tout un travail d'équipe. Je pense à Lola, Perrine et Alix qui, évidemment,
l'équipe de boomerang.
Voilà, ne sentent pas bon, mais c'est aussi pour ça qu'elles font de la radio et qui, malgré toutes ces questions d'hygiène, ont le courage d'oser la différence et ça les honore que malgré
des destins pas faciles.
Voilà.
On ne lâche rien. Bravo à eux, bravo à la vie. Pardon, je fais vite. Donc, je tiens évidemment à remercier l'homme de ma vie, Michou, et mes trois enfants, Riri, Fifi et Pierre. Maman vous aime et elle est très fière de vous. Mais vous êtes un petit peu coquin, vous ne devriez pas être en train d'écouter à cette heure-ci. Vous devriez être couché ou pas. Il devrait être à l'école, je ne sais pas, je n'ai pas la garde. Si on a pu faire cette émission, c'est évidemment parce que la radio existe. Et la radio, c'est quoi? C'est des tout petits lutins qui courent très très vite dans des câbles et qui vont répéter en nous imitant à la perfection exactement tout ce qu'on dit dans les écouteurs des gens aux quatre coins du monde. Voilà, merci pour tout. La Terre est plate, à bientôt. Merci.
Merci. Merci Marina Rollman.
Merci à vous.
D'être venue faire un tour d'un boomerang. Je rappelle que votre seule en scène spectacle drôle sera diffusée sur Canal+, mercredi prochain et que vous retrouvera bientôt dans la bande originale de Nagui pour une drôle d'humeur. Tout de suite, c'est les médias, Sonia De Villers.